Bonjour, bonsoir, selon de quelle partie du monde vous nous écoutez. Qui vous parle, Éric Domergue, vous donne la bienvenue à un nouveau programme en français de RAE l'Argentine vers le monde. Avec la production de Silvana Avellaneda, Julien Cortés et Pedro Araos, responsables du web, et sous la direction de Adrien Corol, nous vous apportons les nouvelles et les rubriques habituelles sur le pays et la région. Maintenant, place à l'actualité préparée par Fernando Farias. Les titres. Le pape François dément ne pas vouloir se rendre en Argentine, son pays d'origine. Pérou. Le Congrès a une cote de désapprobation de 90% selon un sondage. La Cour suprême du Brésil va juger des officiers militaires accusés d'avoir participé à la tentative de coup d'État de janvier dernier. Prix FIFA de Best. L'Argentine a remporté le prix du meilleur joueur avec Messi, ainsi que ceux du gardien de but, de l'entraîneur et des supporters. Le pape François a déclaré qu'il se sentait proche de l'Argentine et a affirmé qu'il était injuste de dire qu'il ne voulait pas se rendre dans son pays natal. La possibilité d'une visite dans la nation sud-américaine reste ouverte, a révélé le pontife. J'ai vécu en Argentine pendant 76 ans, mais je ne suis pas loin, je me sens proche. Je suis toujours en contact avec de nombreux amis compatriotes, a déclaré François. Ces révélations font partie d'un livre qui fait le bilan de la première décennie de l'Argentin à la tête du Vatican qui aura lieu le 13 mars. Selon un sondage, la désapprobation du Congrès péruvien atteint 90% de la population. Le sondage réalisé par le cabinet du Conseil IEP révèle également que le rejet de la présidente Dina Boluarte s'élève à 77%. Seuls 6% des personnes interrogées soutiennent les membres du Congrès qui se sont opposés aux élections anticipées. Il s'agit de l'une des principales revendications des manifestations qui ont débuté en décembre et qui ont fait jusqu'à présent quelque 70 morts. Boluarte a pris ses fonctions après la destitution de Pedro Castillo le 7 décembre dernier. Au Brésil, la Cour suprême jugera les militaires accusés d'avoir participé à la tentative de coup d'État le 8 janvier. Ce jour-là, les partisans de l'ancien président Jair Bolsonaro ont pris d'assaut les principaux bâtiments de l'État dans la capitale brasilienne. Le siège du gouvernement, le parlement et le palais de justice. Une semaine auparavant, le successeur de Bolsonaro, le gauchiste Lula da Silva, avait pris ses fonctions. Les membres de la garde présidentielle qui se seraient abstenus d'agir face à l'attaque feront notamment l'objet d'une enquête. Il convient de noter que Bolsonaro bénéficiait d'un soutien important parmi les militaires, dont certains étaient membres de son administration. Toujours au Brésil, TF1, France 24 et Euronews rapportent les dégâts et les victimes causées par une violente tempête près de São Paulo où 60 mm de pluie sont tombés en 24 heures, soit deux fois plus que la moyenne mensuelle.
Au Brésil, en plein week-end de carnaval, une forte tempête accompagnée de précipitations records a fait plus de 30 morts dans plusieurs localités côtières de l'état de São Paulo. La ville de São Sebastião a été l'une des plus touchées en 24 heures. 600 mm de pluie ont été enregistrés, soit deux fois plus que la moyenne mensuelle. Les secours sont toujours mobilisés, le bilan pourrait s'alourdir. Les festivités ont été annulées, l'état d'urgence décrété.
Des dizaines de maisons prises dans des torrents de boue et de débris. À São Sebastião, les opérations de nettoyage se poursuivent. Quelques dizaines de mètres plus loin, les victimes des glissements de terrain reçoivent une aide d'urgence. Une distribution d'eau potable est ici organisée pour une population encore sous le choc.
Nous étions couchés, nous avons entendu un bruit et quand je me suis levé, les pierres étaient déjà en train de tout renverser. Les maisons s'écroulaient, nous avons dû courir et nous entraider.
Plus de 1700 personnes ont été évacuées et près de 800 bénéficient d'un hébergement d'urgence. Nombre de routes sont endommagées, ce qui complique les opérations de secours. Certaines prennent la voie des airs. Le président Lula a survolé la zone lundi en hélicoptère. Il a assuré les habitants de son soutien tout en appelant à prendre des mesures pour prévenir de nouvelles catastrophes.
Nous ne devrions plus construire de maisons dans un endroit qui pourrait être touché par une telle pluie. Un glissement de terrain pourrait causer la mort d'autres personnes.
L'Institut météorologique national a émis une alerte pour de nouvelles fortes pluies dans la région pour les prochains jours.
Les rues de São Sebastião transformées en cascades. Et la détresse de ses habitants.
Mon Dieu ! La maison des voisins est emportée. Tout est parti. Oh mon Dieu.
Des routes détruites, emportées par une tempête dévastatrice. Comme de nombreuses maisons réduites en miettes. Au milieu du chaos, avec la plus grande précaution.
Faites attention.
Ces habitants en chaîne humaine sauvent un nourrisson, puis un autre enfant. Des coulées de boue partout. Plusieurs axes routiers sont ensevelis, isolant certains quartiers. Des précipitations records. 600 mm de pluie enregistrés en 24 heures, soit deux fois la moyenne mensuelle. Près de 40 personnes sont mortes. Les autorités s'attendent à un bilan bien plus lourd. De nombreuses personnes se trouvent encore sous les décombres.
Sport. L'Argentine a remporté les 4 trophées pour lesquels elle était en compétition lors de la remise des prix FIFA de Best. Tout d'abord, Emiliano Dibu Martinez a remporté le prix du meilleur gardien de but du monde en 2022. Ensuite, l'entraîneur de l'équipe nationale argentine, Lionel Scaloni, a triomphé dans la catégorie du meilleur entraîneur. L'Argentine a également été récompensée pour les meilleurs supporters du monde. Enfin, le prix du meilleur joueur a été attribué au capitaine de l'équipe victorieuse de la Coupe du Monde au Qatar, Lionel Messi, qui a battu les Français Kylian Mbappé et Karim Benzema. Par ailleurs, la Fédération argentine de football a confirmé lundi que Scaloni restera sélectionneur de l'Argentine jusqu'à la prochaine Coupe du Monde en 2026. Radio Nationale de l'Antarctique vers le monde. Radio Nationale Archangel San Gabriel émet sur ondes courtes les mercredis de 21h à 23h UTC et les samedis de 21h UTC jusqu'à 3h le dimanche sur la fréquence 15 476 kHz. Grâce aux améliorations de la chaîne audio et de la ligne de transmission et à la bonne propagation, nous recevons des messages d'auditeurs qui n'avaient pas pu l'écouter depuis des décennies et aussi des rapports de réception de pays comme l'Inde, l'Islande, le Japon, les États-Unis, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni, le Mexique, le Chili, le Brésil, l'Uruguay et tout le territoire national. Les forces de sécurité péruviennes ont-elles causé la mort de manifestants ? Une enquête a été ouverte par la justice du département d'Ajacucho, au sud du pays, là où de nombreuses personnes ont été tuées lors de heurts avec les forces de sécurité dans le cadre de la protestation pour réclamer le départ de la présidente Boluarte et des élections anticipées. Un rapport de RFI.
Les forces de sécurité péruviennes ont-elles causé la mort de manifestants ? En début de semaine, une enquête a été ouverte par la police du département d'Ayacucho, au sud du pays, là où le 15 décembre dernier, il y a 2 mois tout juste donc, au moins 8 personnes, selon les chiffres officiels, ont été tuées lors de heurts avec les forces de sécurité dans le cadre de la protestation pour réclamer le départ de la présidente Boluarte et des élections anticipées. 2 mois après, Juliette Chénion, la fin de l'impunité contre ces violences qui ont fait 48 morts au total à travers le pays est justement au cœur des revendications de ceux qui occupent encore les rues du Pérou.
Dans toutes les manifestations, le même slogan « Dina assassin » et des dizaines de visages imprimés en noir et blanc sur des pancartes. Il y a Clémer, 22 ans, Remo, 40 ans, DAQ, les initiales d'un mineur de 15 ans. Paty Condori a fait la route de Juliaca jusqu'à la capitale pour leur rendre hommage.
On vient demander justice pour ce massacre.
Début janvier, 18 civils ont été tués autour de l'aéroport de Juliaca. 3 semaines plus tôt, même scénario à Ayacucho, 10 morts.
Chaque fois que la présidente parle, elle ne reconnaît pas que la police a tiré.
Il y a pourtant des preuves. La plupart des civils tués l'ont été par des tirs d'armes à feu, comme l'indique une trentaine de dossiers d'autopsie consultés par Luz Alarcón, journaliste du média péruvien Ojo Público.
Dans les corps, on a retrouvé des projectiles de fusils HK et Galil. Ce sont des armes de guerre qui sont en effet utilisées par les forces armées au Pérou. Il y a aussi des preuves d'utilisation de Kalachnikov et de pistolets 9 mm.
Armas cortas que son pistolas de calibre 9 mm.
La plupart des morts ont été touchés à la tête ou au thorax.
Dans le cas de Puno, les blessures montrent qu'il y a eu des tirs de loin. D'après plusieurs experts, il s'agit de tirs à l'aveugle dans la foule.
Et certains, comme Edgar Prado, 51 ans, à Ayacucho, n'étaient même pas en train de manifester.
Il est sorti aider un blessé car il vivait près de l'aéroport. Sur une vidéo de surveillance, on le voit agenouillé et tombé après avoir reçu une balle. Et dans son cas, on a retrouvé un projectile de fusil HK.
Le parquet a ouvert plusieurs enquêtes, notamment contre la présidente et certains ministres, pour déterminer les responsables de ces décès. Le Pérou déplore aussi près d'un millier de blessés. À Lima, dans la capitale, l'association Médecins sans frontières a déployé un poste médical à proximité des manifestations. Près de 200 prises en charge en 3 semaines, explique le responsable Jean Heureux.
C'est surtout des blessures par plomb, des blessures par balle en caoutchouc et une grande majorité des blessures au crâne dues aux grenades lacrymogènes, où il faut faire des points de suture, etc.
Dans la capitale, les manifestations, d'abord pacifiques, se terminent par des heurts avec la police. Plus de 10 000 policiers sont mobilisés. La semaine dernière, avant une marche anti-gouvernement, démonstration de force, plusieurs centaines d'agents ont défilé en rang devant le palais de justice. L'ONG Amnesty International s'inquiète aussi des centaines d'arrestations. Marina Navarro-Mangado, la directrice de l'association.
Ce sont des détentions arbitraires. Dans beaucoup de cas, les forces de l'ordre les accusent de crimes organisés ou de terrorisme. Des accusations grave. Mais ce qu'on voit, c'est que la plupart des détenus ressortent sans aucune charge retenue contre eux, car il n'y a pas de preuves.
Plusieurs associations dénoncent aussi le racisme de la répression. La majorité des personnes visées viennent des provinces, sont d'origine autochtone. À Puno, dans le sud du pays, où l'état d'urgence dure, des soldats de l'armée parcourent désormais les rues.
L'armée n'est pas formée à intervenir sur le terrain des manifestations. C'est une réponse par la force de la part des autorités.
Le 9 février, un mois après ce que les manifestants ont appelé le massacre de Puno, la veillée d'hommage aux morts a elle aussi été réprimée, faisant une vingtaine de blessés.
Une gigantesque prison équipée de hautes technologies de surveillance était inaugurée début février 2023 à El Salvador. Les 2000 premiers prisonniers membres des Maras, les bandes organisées du pays, ont été transférés dans ce qui est la plus grande méga-prison des Amériques, selon RFI.
Une musique tonitruante, des images léchées, quasi de la production cinématographique, et c'est à s'y méprendre, encore une fois. Ce que l'on entend là, c'est une vidéo postée sur les réseaux sociaux par Nayib Bukele, le président du Salvador, qui met en scène le transfert impressionnant ce week-end de 2000 prisonniers des Maras, les membres des gangs criminels, dans la plus grande prison du continent qui vient d'ouvrir au Salvador. Bonjour Eliott Brachet.
Bonjour Michael, bonjour à tous.
Communication explosive a sorti de ce tweet du président. Voici votre nouvelle maison dans laquelle vous vivrez reclus, mélangé pour des décennies sans pouvoir causer plus de mal à la population. Eliott, la presse du continent affiche aujourd'hui les images de ce transfert.
Oui, on y voit des centaines d'hommes enchaînés, crânes rasés, torse nu, les mains derrière la tête et la peau recouverte de tatouages. Ces membres de la Mara Salvatrucha et du Barrio Dieciocho sont transférés en courant, tête baissée, au milieu d'un cordon de policiers salvadoriens armés et cagoulés. Nous sommes dans la prison flambant neuve de haute sécurité de Tecoluca, baptisée CECOT. C'est l'acronyme pour Centre de confinement du terrorisme, ou le plus vaste centre pénitentiaire d'Amérique, construit par le président Bukele, vous l'avez dit. Le journal El Mundo, dans un éditorial, s'interroge sur le sort de ces milliers de jeunes hommes qui ne retrouveront sûrement jamais la liberté. Une jeunesse gâchée dans la délinquance et le crime, condamnée à un futur obscur entre quatre murs. Le grand défi du gouvernement à long terme, estime le quotidien, sera de donner des opportunités à ces jeunes plongés dans la pauvreté afin qu'ils cessent de se convertir en criminels.
La lutte contre les bandes armées, Eliott, le président Bukele est extrêmement populaire. On a fait un cheval de bataille depuis la mort de 76 personnes. C'était en mars 2022, l'an dernier, lors de violences, et bien justement entre ces gangs.
Oui, le président Bukele se gargarise d'avoir fait du Salvador le pays le plus sûr de toute l'Amérique. Le taux d'homicide a effectivement drastiquement chuté depuis 4 ans, rappelle le journal Contrapunto, qui considère que la voie est libre pour la réélection de Nayib Bukele. Les élections sont prévues l'an prochain, en février 2024, au Salvador. Et selon un sondage repris par le journal, Bukele jouirait de 90% d'opinion favorable. Vu des pays de la région, la guerre menée par ce président salvatorien contre les gangs est efficace et audacieuse. C'est en tout cas ce qu'estime le journal colombien Semana. Pourtant, cette politique s'est traduite par de nombreuses violations des droits humains, rappelle le quotidien colombien El Faro. Depuis un an, le président a obtenu du Parlement la mise en place d'un état d'urgence renouvelé sine die. En une année, plus de 60 000 personnes suspectées d'appartenance à des groupes crapuleux ont été mises derrière les barreaux. Cette politique du chiffre, les arrestations et les tortures de nombreux innocents constituent des atteintes graves à l'état de droit, estime El Faro. Le Salvador est devenu un état-prison.
En conférence de presse à Miami, des enquêteurs américains ont expliqué que 4 suspects, un Colombien, un Vénézuélien et 2 Américains, avaient joué un rôle clé dans la préparation de l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse le 7 juillet 2021. Un rapport de RFI.
La capitale haïtienne qui avait le regard tourné hier du côté de Miami, aux États-Unis. Où les autorités américaines, vous l'entendez, ont annoncé l'arrestation en Floride de 4 suspects dans l'assassinat de Jovenel Moïse en juillet 2021. Colombien, Vénézuélien et 2 Américains accusés de soutien à une conspiration pour kidnapper ou tuer le président d'Haïti. Forcément, cela fait réagir dans le pays. Au Gonaïve, Ronald Paul.
L'interpellation de ces 4 nouveaux suspects par le gouvernement américain est un signe de solidarité à l'endroit du peuple haïtien de la vie de Pierre-Robert Auguste, président de l'Association des entrepreneurs de l'Artibonite.
Je souhaite qu'on arrive à mettre la main sur le dernier des complices, tout en estimant que c'est une gifle pour la justice haïtienne qui était incapable d'assumer pleinement ses prérogatives pénales.
C'est aussi l'avis de Maître Caristène Fleurmont, coordonnateur de l'espace de réflexion et d'action citoyenne. Même s'il estime que c'est un grand pas vers l'aboutissement de l'enquête, mais il n'éprouve aucune fierté puisque c'est la justice américaine qui essaie tant bien que mal de faire la lumière sur l'assassinat du président haïtien après plus d'un an.
Ce que nous n'apprécions pas, c'est que la justice haïtienne est absorbée par la justice américaine. Nous, en tant que citoyens organisés, en tant que citoyens conséquents de la République, nous ne sommes pas joyeux de la façon dont ces arrestations se font, et ceci par les autorités américaines. On a l'impression que le président Jovenel a été un président américain.
Mathieu Olsen, responsable des questions de sécurité nationale au ministère de la Justice, affirme lors d'une conférence de presse à Miami que 3 des suspects arrêtés mardi matin cherchaient à tirer des bénéfices de changement de pouvoir en Haïti. Ronel Paul, Les Gonaïves, RFI.
Et leur arrestation porte à 11 le nombre d'accusés donc actuellement détenus aux États-Unis dans cette enquête. Bonjour Stéphanie Schuller.
Bonjour Mickaël.
La presse haïtienne que vous avez lue, elle aussi s'interroge. Le pays est-il à la traîne dans cette enquête?
Eh bien, Franz Duval, notre confrère du journal Le Nouvelliste, fait remarquer quelque chose de très intéressant aujourd'hui, Michael. Sur les 4 hommes arrêtés hier par les autorités américaines, 3, à savoir le Colombien, le Vénézuélien et l'Américain d'origine équatorienne, étaient déjà listés dans le premier rapport établi par le Bureau des affaires criminelles de la Direction centrale de la police judiciaire haïtienne. Un rapport publié le 2 août 2022, moins d'un mois après l'assassinat du président Moïse. Seul le 4e prévenu, l'Américain Frédéric Bergman, est un nouveau venu dans ce dossier, constate Franz Duval dans son éditorial du jour. D'ailleurs, Le Nouvelliste s'interroge. Les 11 personnes en prison actuellement aux États-Unis ont presque toutes été identifiées par la police haïtienne qui a fait son travail. Ces pistes étaient assez solides pour que la justice américaine les suive et déclenche des mises en accusation.
La police haïtienne fait son travail, la justice haïtienne, elle ne suit pas. C'est ça qu'il faut comprendre.
Oui, le Miami Herald souligne qu'alors que plus de 40 individus ont été arrêtés en Haïti en relation avec l'assassinat de Jovenel Moïse, personne n'a encore été formellement inculpé. L'enquête haïtienne en est à son 5e juge d'instruction, ce qui a bloqué son avancée.
Dans la banlieue de Rio de Janeiro, au Brésil, loin du regard des touristes, le carnaval des banlieues pauvres est beaucoup moins connu. mais n'en est pas moins traditionnel. Pendant plusieurs nuits, les batebola, littéralement les frappe-ballons, envahissent les rues des banlieues avec leurs costumes de clowns, derrière lesquels se cache en réalité une culture très familiale. Reportage de Sara Cosolino pour RFI.
Le Brésil, où le carnaval se poursuit, mais loin des grands défilés des célèbres écoles de samba très touristiques. Je vous emmène dans les banlieues de Rio, à la découverte des batibola, littéralement les frappe-ballons qui envahissent les rues avec leurs costumes de clowns effrayants, une culture qui est aussi très familiale. Reportage de notre correspondante à Rio, Sara Cozzolino.
Il est 21h, le groupe de batibola attend la livraison de feux d'artifice pour que le spectacle puisse commencer. Marcio Souza vient assister à la sortie du groupe Bolo Doido pour la deuxième année consécutive.
Voir la sortie des batibola, c'est quelque chose qui donne la chair de poule. D'abord parce qu'ils sont là pour semer le désordre, la pagaille, nous faire rire. On voit des gens masqués, mais on ne sait pas qui c'est. Ça peut être votre voisin, donc lui va venir vous voir, s'amuser, frapper le ballon pour vous faire peur.
Il va brincar, il va battre la bola pour te assustar.
Car une fois costumé de la tête aux pieds, impossible de reconnaître ceux qui se cachent derrière ces masques aux couleurs vives, dans des déguisements pleins de plumes et de paillettes. Cette année, le thème du Bolo Doido est inspiré d'un dessin animé Disney. Isabelle, 13 ans, aide chaque année son père à enfiler son costume, une combinaison bouffante qui s'ajoute à des collants et de longs gants roses fluo.
Quand j'avais 6-7 ans, j'avais très peur parce que les masques sont effrayants. Je pensais que c'était un monstre. Mais après, je me rendais compte qu'il y avait une personne sous le masque. Et maintenant, je n'ai plus peur.
Pour assister au défilé de batibola, il faut se rendre dans les quartiers nord et ouest de Rio à près d'une heure du centre-ville. Jonas Camisetta a fondé le groupe Bolo Doido dans les années 90.
C'est une culture du quartier de la banlieue de Rio, une culture qui rassemble énormément d'enfants, des adultes et des grands-parents. Et cette année, il y a des bébés de 1 an et de 2 ans. Le groupe se renouvelle bien.
Les feux d'artifice marquent le début du défilé. Leonardo, 43 ans, marche main dans la main avec son fils de 4 ans cette année. Il fait partie du groupe depuis ses débuts.
Tous les ans, je me teins les cheveux de la couleur du batibola. Cette année, le thème est rose, alors j'ai fait une coloration rose. C'est comme une promesse que je me fais à moi-même.
Aucun détail n'est laissé au hasard dans le costume. Des parfums entêtants sont même confectionnés pour l'occasion. Cette année, les participants ont dû payer 1700 reais pour leur costume complet, autour de 300 euros. Pedro, 14 ans, vient tous les ans avec son père.
C'est un costume avec beaucoup de détails, ça prend énormément de temps à confectionner. Il faut réfléchir au concept, le dessiner, s'assurer que d'autres groupes n'auront pas les mêmes idées. Et le jour du carnaval, on est fiers.
Nous sommes ici dans le quartier de Deodoro, une banlieue souvent considérée comme dangereuse par les habitants des quartiers riches et plus touristiques de Rio, qui ne mettent jamais les pieds dans ce type de carnaval.
C'est facile de stigmatiser les batibola parce qu'ils viennent de la marge de la société. Et alors oui, il y a déjà eu des épisodes de violence, comme il en existe dans toutes les couches de la société. Mais quand la violence vient des classes sociales plus pauvres, on en parle davantage parce qu'elles sont victimes de discrimination.
Il serait environ 500 groupes de batibola à Rio, près de 2000 si l'on compte les banlieues plus éloignées. Marcio fait partie de l'école de samba de Beija-Flor et reconnaît une différence de traitement entre ces deux types de carnaval.
Tout se concentre dans le centre et la zone sud, les écoles de samba et les groupes de fanfare de rue. Mais que fait-on des autres territoires qui produisent aussi de la culture et ont aussi besoin de visibilité?
Les politiques publiques sont en train de changer et réservent désormais une partie de leur budget à l'organisation de ce carnaval des batibola. Ce qu'il manque vraiment, c'est encore la visibilité et changer les mentalités des habitants des autres quartiers.
Levanta a mão pro ar, eu deixo o pé arrastar. Mãozinha na cintura, quero ver você dançar. Todo mundo vai cantando, o coração acelerando.
Et ainsi se termine ce programme en français de Rai l'Argentine vers le monde. On se retrouve dans une semaine.